souvent la fonction de reconstituer quelque chose dont le relève du passé, dont on a perdu une partie. Donc on essaie de rassembler le maximum de données pour justement donner une idée de ce que c'était que ces données du passé. Donc pour nous, c'est une institution. Alors pour les textes, il s'agit de reconstituer les passages manquants, d'inférer ce qu'il y a dans le papier, par exemple. Hein. Les langues des prononciations disparues, hein, c'est des langues sur la linguistique historique en particulier. Alors, des documents sonores, et ça, effectivement, c'est aussi un travail de constitution de corpus, parce que les documents sonores sont parfois ont été transcrits, hein, notamment il y a beaucoup d'enquêtes linguistiques qui ont été faites au début du XXe siècle, qui ont été enregistrées, qui ont été transcrites, et les enregistrements ont été jetés. Donc, effectivement, pas tout ça en fond, mais donc, il y a aussi ce travail de restitution, donc même pour les œuvres d'art, bien sûr, on connaît bien ce travail de restauration, et on peut évidemment compenser ces manques, ces données qui ne sont plus là, par la réalité augmentée, et notamment en mettant le spectateur, le public, etc., dans une atmosphère d'inaction. Là-dessus, pour les plus populaires, les plus connus, souvent évidemment en archéologie et quand on visite un château, un chambre, on peut voir la pièce dans laquelle était le temple de premier au Jardin, etc. Donc, il y a tous ces corpus-là sont des corpus qui sont organisés pour une valorisation auprès d'un très large public. Donc, ça, mais derrière ça, il y a quand même tout un travail qui a été fait pour justement savoir comment était la pièce dans le point premier. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de données qui sont. Alors, pour ce qui est des données textuelles, pour l'édition, je parle plus précisément, donc on appelle maintenant philologie numérique, ou philologie, justement, c'est constitution de corpus d'édition qui sont des éditions assez élaborées, qui n'écartent pas le problème récurrent pour les éditeurs de textes de l'ancien, c'est quel est le meilleur texte. Vous avez plusieurs manuscrits, plusieurs éditions, comment faire. Alors, autrefois, dans les médiévistes en particulier, constituaient, prenaient un manuscrit de référence, celui qu'ils considéraient comme étant le meilleur, et le complétaient par les autres manuscrits, là où les autres étaient supérieurs. Donc, ce qui faisait un texte qui, en fait, n'existait pas. Il était un texte idéal, en quelque sorte, mais que personne n'avait jamais lu. Qui n'avait pas de réalité tangible. Hein. Les choses ont changé depuis et on préfère prendre un exemplaire de référence et proposer des variantes des manuscrits ou des autres éditions. C'est ça qu'on fait. Et notamment quand l'auteur a hésité, quand il a fait plusieurs éditions d'un même ouvrage en changeant. En changeant considérablement, comme le montrait pour les essais, on va faire une sorte d'édition génétique, surtout si on a conservé des brouillons, l'édition génétique de Proust, hein, à partir des brouillons de Proust, c'est pas la même chose que ce que Proust a donné à l'éditeur. Effectivement, on voit des élaborations complexes. On a la même chose pour Flaubert, pour Madame Bovary, on a aussi les Stendhal, on a aussi. Mais maintenant, tout ce qu'on va conserver ces brouillons et les donner à la bibliothèque, hein, donc pour étudier ces ratures, tout ça. Donc ça s'appelle maintenant le close reading, hein, c'est ces éditions qui vont essayer de prendre en compte toutes les hésitations de l'auteur. Alors, c'est ce qu'on a fait pour les essais. On n'a qu'un seul brouillon, en fait, hein, c'est un exemplaire. Avec les additions de Montaigne, hein, les enfers de Bordeaux. Pour le XVIe siècle, on n'a pratiquement aucun brouillon, donc la question ne se pose pas. Les brouillons qui n'étaient pas les copies, pardon, qui étaient données à l'éditeur, les imprimés, après ils jetaient cette copie et on n'en a pratiquement pas gardé. Évidemment, c'est un peu dommage, parce qu'on voulait aussi savoir quelle est la part de l'éditeur dans ce que l'on voit. Et ça, c'est une question de difficile. Alors, avec ce système de valorisation du document original, bien sûr, on va avoir une annotation qui va être gonflée, qui va être plus rhétorique, parce que si l'auteur a beaucoup hésité, s'il a beaucoup raturé, si les éditions sont différentes, si les manuscrits sont différents, tout cela, ça fait un encodage qui peut être très très long. Et il y a en plus des éléments qui sont là-dessus, ce sont des informations qui viennent des éléments sémantiques, notamment le marquage, un terme, et les informations générales. Alors, donc, cette édition numérique savante, là, j'ai fait aussi un petit cercle qui montre un peu comment elle est produite et comment elle peut constituer des corpus qui vont eux-mêmes avoir une certaine valeur. Donc, c'est un chercheur qui a un certain savoir, quand même un laboratoire, qui va avoir par Kairos, alors Kairos en vrai ça veut dire c'est le moment important, il va décrocher une timbale, c'est-à-dire un financement. Pas de financement, pas de corpus. Alors, corpus sur ses ans perdus. Hein. Mais voilà, donc voilà, par exemple, pour le projet Montaigne, c'est vrai qu'on a eu la chance de tomber une année où il y avait un affichage corpus, constitution corpus. Et ce n'est pas tous les ans. Ça peut durer 2-3 ans, après la se repose et on va reproposer, on va proposer d'autres thématiques et ainsi de suite. Donc il faut tomber au bon moment, il faut donner son projet au bon moment. On voit le financement. Le financement permet de payer des personnes, généralement des anciens étudiants qui ont statué en études, beaucoup de pour faire justement le travail et le constitution du corpus. Alors, pour ce qui est des éditions numériques, c'est la transcription, une transcription d'idées. Souvent, la transcription n'est pas faite par les étudiants d'études, elle est faite par le transcripteur ou par un OCR si on est dans les textes d'étudiants. Et en revanche, dans l'édition à l'expertise, elle relève d'étudiants avancés et de chercheurs. On aboutit à une édition experte, qui peut être une édition d'un tel salier, ou tout un corpus qui va être édité avec les mêmes principes. Et ce qui va en sortir, c'est la création de la valeur. Alors, dans tous les sens du terme, hein, c'est une valeur parce que ça coûte cher, donc, et aussi parce que bien, ça va avoir une certaine autorité dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire, et que. Ce corpus-là va servir à d'autres, va servir à des étudiants, etc. Et va réalimenter le savoir des chercheurs et des médecins. C'est comme ça qu'on fait le tour. Alors, la fouille de données, le rôle sémantique, je suppose que vous savez ce que c'est. Ce sont justement les corpus constitués de façon homogène pour permettre de faire. Et notamment des alignements et des comparaisons d'éditions et de traductions, et pour ça il faut qu'on ait des textes qui soient de même statut, de même nature, pas que ce soit encodé différemment, hein, il va falloir les homogénéiser. Aligner aussi les textes et les traductions, un alignement de traduction est aussi très prometteur. L'analyse des structures narratives, pour ceux qui travaillent sur l'histoire du roman, par exemple, c'est intéressant de voir. Actuellement, on s'intéresse à une des définitions du roman, ça serait l'apparition du discours indirect libre, en tant que monologue intérieur. Ça peut discuter, mais il faut avoir des grands corpus, et puis il faut savoir si c'est vrai pour les textes en anglais, les textes en français, les textes en espagnol, etc. Est-ce qu'il y a des influences qui n'est pas facile à repérer. Repérage des topics, hein, c'est les approches probabilistes du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on a énormément des centaines de textes et uniquement de façon statistique, on va donner, faire sortir le thème principal du roman sans intervention manuelle, si je puis dire, hein, uniquement à partir du vocabulaire. Alors les résultats en sont très discutés parce que les statistiques, elles dépendent, comme vous le savez, de ce qu'on leur donne. Alors, on peut éliminer on se débarrasse de conventions, de fonds personnels, etc. On garde seulement le lexique, par exemple. Après, le lexique n'est pas forcément ce qui est le plus significatif d'un auteur, d'un texte, d'une thématique. Enfin, bon. Elle est donc analysée le discours indirect libre, comme ça, si vous ne l'avez pas marqué au départ, très subissant tout seul, comme ça, d'un corpus, surtout sur les textes de l'action. Vous avez ces essais qui ont été faits avec des plus petits auteurs, hein, donc, ou des internautes peuvent annoter page par page, soit eux-mêmes, des serviteurs vont commenter l'œuvre, soit l'œuvre qui a déjà été écrite, soit une œuvre en train de s'écrire, hein, c'est effectivement les nouvelles, les approches de l'écriture littéraire, et puis aussi, bien sûr, ce qui est spectaculaire, hein, ce sont des visualisations des citations, des lexiques, des déplacements des personnages, en fait, tout ce qui fait qu'on lit pas, en fait. Hein. Ça, et donc, ça s'appelle le distance reading. Le distance reading, c'est la non-lecture. C'est ce qui va sortir d'un texte sans qu'on lise. Enfin, c'est une machine qui sort des choses, hein, et qui va sortir effectivement les déplacements des personnages, simplement parce que les lieux ont été repérés, les noms de lieux ont été repérés, on peut les mettre sur une carte, et les chronologiquement, on peut le faire. Et ça, je suis ici, moi, voilà, la géographie littéraire, c'est un genre, effectivement, de recherche intéressante. Ça s'appelle le business reading, et d'un coup, on peut analyser aussi comme ça, les réseaux des marchés, si vous prenez seulement les métadonnées de tous les livres qui ont été publiés, par exemple, au 19e siècle, vous allez sortir ceux qui ont été le plus publiés. Alors, ce n'est pas forcément ceux qui ont été le plus vendus. Hein, et là, le problème, c'est de savoir ce qui a été vendu, et une fois que ça a été vendu, est-ce que ça a été lu. C'est encore autre chose. Hein. Mais il y a quand même des statistiques qui sortent de ça. Après, on peut dire ce qu'on veut. Donc, le champion du distance reading, c'est avec de l'argent, Franco Moretti. Le frère de Nanni Moretti. Qui s'est spécialisé dans le distance reading. Alors voilà, l'exemple de distance reading, évidemment on ne voit rien, mais c'est très bien par ailleurs. C'est un peu caricatural parce qu'il faut aller regarder l'article des collègues donc, qui ont regardé les différentes versions, les différences entre plusieurs versions, parce que vous savez que les évangiles ont plusieurs versions, on a pas un texte canonique, et donc par différenciation, ce sont des tableaux comme ça. Après, pour pouvoir les interpréter, seuls ceux qui les ont produits peuvent les interpréter, bien sûr. Mais bon, c'est pas inintéressant, parce que ça peut faire apparaître justement des éléments qu'on ne voit pas, c'est-à-dire à l'œil nu, c'est-à-dire à la lecture. Alors, je veux passer rapidement à l'expérience étudiante depuis 2003 en matière de corpus. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette généralité? Sur vos expériences, l'expérience de lecteur ou de l'internaute? Pas question de Romain. Donc là, c'est un bref historique que vous passez dans les diapositives sur les différentes étapes du fond des DOH, notamment l'acquisition de la maîtrise de l'économie et les premières propositions à partir de 2007. Alors, ce qui est important, c'est quand on construit les corpus, de voir qui on fait déjà. Pour ne pas faire la même chose que ce qui a déjà été fait. Et si certains laboratoires, certains centres de recherche ont des objets non pas identiques mais similaires, c'est très intéressant de voir ce que cela donne, comment ils ont procédé. Ainsi que le projet Belra, par exemple, a servi de modèle, que le projet Van Doux, que le projet Van Gogh, les lettres, la publication des lettres de Van Gogh, sert beaucoup de modèle à ceux qui publient des correspondances. Encore plus de correspondants. Donc il y a comme ça des projets visibles sur le web qui disent bon voilà, je fais ça, mais pas comme ça, mais je fais ça, mais autre chose. Donc on construit des corpus par limitation et par différence. D'où l'importance de la vision à à des grands organismes internationaux. Donc pour les TDAH, on a pu adhérer à Eurodiagram, donc il y a un consortium de très grandes bibliothèques d'Europe, et on a pu y rentrer parce que le CESR a un petit fonds aussi. On pouvait rentrer dans ce cadre-là. C'est très intéressant d'aller à ces réunions européennes, parce que pendant ces années, là, justement, de 2006-2010, l'Eurodiagram a mis en place sur le plan juridique quelque chose qui est très important, c'est la notion de revenu public, par exemple. Et là, ils sont réfléchis entre juristes des Pays-Bas, d'Allemagne, enfin des différents pays d'institut européen, et après avoir réfléchi, souvenir effectivement de leur annonce, mais finalement, eh bien, c'est Creative Commons qui correspond le mieux au type de mariage juridique pour les textes qui sont produits par les bibliothèques. Donc, la notion de domaine public, c'est pareil que vous voyez sur certains textes, vient de cet accord européen, c'est pas forcément les États-Unis. Et donc, pas forcément les autres pays. C'est pour ça qu'il y avait même des pays européens qui n'avaient pas. Mais bon, ça veut dire qu'un texte qui a été numérisé par la Bibliothèque nationale de France, qui est en ligne, peut être réutilisé sans que vous ayez à payer quoi que ce soit. Mais en principe, il faut même dire tout ça, en règle là-dessus. Donc, les positions des TDAH étaient même mentionnées par Eurodiagram, par Galica, par Isidore, vous connaissez peut-être Isidore, donc c'est le moteur de recherche CNRS, Institut de SHS, qui mentionne un peu tout, hein, et notamment toutes les productions que vous déposez dans HAL, sinon ce ne sera pas visible dans Isidore. Les TDAH sont membres de consortium TEI. Et de cet infrastructure de recherche européenne, DARIA, Digital Infrastructure Commons and Humanities, et l'école d'été qui a été organisée par le BDH en 2017, a été financée par DARIA. C'est très laborieux de se faire financer par un système européen, très très laborieux, mais ça va finir par se faire. Et il faut faire l'avance quand même, c'est un remboursement. Sinon, les projets européens, si vous avez déposé un projet, une constitution de corpus au niveau européen, il faut soit rentrer dans le système H2020, dont on vous a peut-être parlé, donc horizon 2020, et à ce moment-là, il faut avec un consortium de plusieurs pays, etc., c'est assez long, en fait, quand c'est très difficile à constituer. Ou alors déposer individuellement un projet European Research Council, un ERC, quand vous êtes déjà quand même maître de conférence. Alors, membre, bien sûr, du consortium de formation. Alors, l'importance de ce corpus qui sont toujours en cours d'élaboration de l'âge, c'est la réutilisation par d'autres. C'est ça qui est le signe du succès aussi, c'est que certains les reprennent, ces textes. Alors, il y a bien sûr des éditeurs qui sont intéressés par quelques images dessinées. Beaucoup doivent d'ailleurs les reprendre sans demander l'autorisation. La rançon de la diffusion en ligne, mais par exemple, effectivement, pour d'autres projets, le corpus de référence du français, les chercheurs individuels, peuvent réutiliser ces corpus. Certains vont réutiliser seulement les métadonnées, et puis on va pouvoir contribuer aussi à d'autres projets, comme justement dans l'équipe des cinémas, les métadonnées des BDH vont rentrer dans cet ensemble de cinémas qui a sur tous les textes médiévaux, mais qui sont extrêmement différents de ceux que l'on produit pour les BDH. Et cette réutilisation, ça interopérabilité, le fait de pouvoir chercher dans des différents corpus, dans un corpus de corpus, en quelque sorte, c'est très important. Alors, comment on procède pour traiter un texte déjà pour les textes? Première étape, prescription, quelle presse diplomatique très similaire, je reviendrai dessus, l'encodage, et on va aboutir pour, parce que l'objectif c'est une édition en ligne avec un affichage en HTML, sous XTF, qui est le moteur général, la plateforme qui gère ensemble, avec des possibilités de télécharger le PDF, le texte en XML et une version audio. Alors il n'y en a pas toujours, mais pour vous plaît, on en prendra. Parallèlement, bien sûr, pour les traitements. Alors, les traitements, parce que c'est des scripts de préencodage des textes, ce sont des textes en orthographe ancienne. L'encodage fin avec oxygène, la préparation des requêtes avec XTF, donc le logiciel XTF analogue qui sont des logiciels qui vont faire un traitement linguistique, et puis l'archivage, qui se fait d'ailleurs en particulier ici, ces données, il faut les délocaliser pour ne pas les perdre, hein, il faut les mettre à plusieurs endroits. Alors ça commence à prendre de la place pour les DDH. Pour le texte, c'est rien du tout. Hein. Même 150 textes, même encodé en TI avec un encodé de jour, voilà, on va vraiment vous dire là, si c'est des textes. Hein. Donc, ce sont les différentes étapes. Et puis, bien sûr, il a fallu auparavant faire des choix technologiques, choisir des plateformes, et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile parce qu'elles ne sont pas très adaptées au projet plus long terme. Donc il faut regarder là aussi sur les projets des uns et des autres, y compris internationaux, pour voir finalement ce que l'on peut faire avec telle plateforme. L'ensemble des bases pour l'instant est en PHP et en SQL pour l'ensemble des DDH, avec l'espoir d'une migration en XML. Il faut quelqu'un de compétent pour le faire. Sans c'est pas cela, peut-être venir. Pour EPSTEMON, c'est donc géré par EPSTEMF, Internet Framework. C'est l'Université de Berkeley qui a construit ce logiciel, qui est accessible, qui est gratuit, hein, accessible. Il faut quand même être un peu informaticien pour l'installer et pour le gérer, hein, ce n'est pas comme ça. Et il y a un indexeur du CEM, hein, qui est un indexeur qu'on peut retrouver sur différentes plateformes. Et l'intéressant, c'est que cet indexeur va aller rechercher dans tous les documents des DDH, qu'ils soient en texte et qu'ils soient en PDF en particulier. Alors, ce qu'ils trouvent en PDF, c'est la chaîne de caractères brut. Ce n'est pas du tout élaboré. Mais c'est comme quand vous cherchez en Google, hein. C'est pareil, vous avez des résultats. Après, bon, dans les déchets, mais il peut y avoir des découvertes. Compris à l'intérieur des propres corpus qu'on a fait nous, on n'imaginait pas qu'il y avait ça dans tel ou tel fichier PDF. Bon, pour le site Montaigne, c'est le blog des Monsieur WordPress, vous connaissez. Pour le site Renon, c'est sous Drupal. On a été obligé d'y permaniser parce que ça faisait partie du contrat avec la région. Il faut travailler avec des entreprises régionales. Et le problème quand vous externalisez, c'est qu'une fois que le contrat est passé, eh bien, vous vous retrouvez avec votre site, contre pas, avec personne pour le maintenir. Donc c'est un peu une impasse. Et il faut faire très attention lorsqu'on externalise de bien garder les droits absolument à tous les niveaux de la constitution du site. Les bibliothèques françaises, donc la croix humaine et l'université, c'est sous la liste. Et alors pour mes cas, ce sera pour les éditions virtuelles. Pour l'instant, on n'en a pas mis en place, c'est prévu. On attend le nouvel Omega de Carex, qu'on mais pour l'instant, on n'a pas en version bêta, je crois, c'est ça. Alors l'analyse linguistique, elle est faite par des moteurs de recherche qui sont spécialisés justement dans le traitement automatique du langage. Ce n'est pas exactement du TAL, donc c'est logiciel. Donc on a utilisé principalement pour l'ensemble des systèmes philologiques, un logiciel là aussi qui est gratuit, qu'on peut installer à condition d'être un peu formé quand même, étudié à l'Université de Chicago. Donc actuellement on travaille à l'installation de la version 4. Jusqu'ici, on utilisait la version 2, mais il fallait nettoyer le texte de pratiquement toutes les balises théoriques qu'on avait mises. Donc, c'était quand même un peu dommage. La version 4 va tenir compte de nos balises, et notamment partage des enfants, que l'on a fait en CE. Plus performant justement pour le traitement linguistique, l'ISM, qui est développé à Lyon, c'est la texte pour les textes qui ont été avancés, et là, ce qu'on a pu faire avec les essais de l'ISM est tout à fait remarquable, intéressant, parce que l'ISM va tenir compte absolument de tous les éléments graphiques, y compris la ponctuation. La plupart des logiciels de traitement linguistique se débarrassent des séparateurs et de la ponctuation, pour lesquels le statuteur est dommage. Et puis, analogue, il est développé à l'université par un anglais, et qui permet justement l'étudiage et la gestion de l'hétérographie et parfois les sons en ligne, l'ergonomique, c'est facile à installer. Ce qui se passe en Java. Et pour me rappeler, je travaillais avec l'hyperbase, et l'hyperbase est un profil à tous les côtés par les téléphones. Ça, c'est la DDD de des fichiers dont on a besoin pour faire la publication des textes en ligne. J'insiste sur le header, c'est-à-dire l'entête, parce que l'entête va contenir toutes les métadonnées que vous verriez. Si vous consultez un livre dans la bibliothèque, par exemple, dans le champ, plus tout l'historique en fait, du traitement du texte, qui l'a transcrit, de camp à camp, qui est intervenu, qui a contrôlé, qui a repris l'encodage, les mises à jour, etc. Donc il y a toutes les informations qui sont dans ce fichier public, qu'on n'est pas obligé de montrer au public. C'est en version HTML, vous pouvez supprimer tout ça. Vous pouvez le mettre, que l'auteur est petit, la date. C'est comme on veut, justement. L'intéressant, c'est qu'on peut choisir ce que l'on rend. Et c'est quand même public, puisque vous pouvez télécharger le fichier de TV en entier. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là, mais en format XML, pas en HTML. Les crédits, les actions, etc. Les balises TV, bon, je ne vais pas vous en dire avec ça, ça se présente comme ça. Ce sont des balises. J'ai mis en gras des balises importantes. Pour l'édition numérique, c'est celles qui vont marquer les abréviations, les additions, les notes, ce qui a été supprimé, les trous, ce qu'on ne peut pas lire, comme clair, ce que l'on met à la place, ou quelqu'un met à la place, ce plat, etc. On peut marquer, bien sûr, dans les textes dramatiques, les textes de théâtre, on peut marquer les personnages, les parties qui sont directes, les discours directs. Les noms de personnes, les noms de lieux, etc. Et à partir du moment où on a marqué les noms de lieux, on peut ensuite lier avec Dionès, avec une carte. C'est ce qu'on a fait pour parler, pour Gargantua. On a une carte qui est sortie en fait, du texte, du marquage du texte. Ce n'est pas une carte qui a été faite manuellement après. C'est l'encodage du texte qui a permis de le faire. Donc il y a tout un cahier des normes, un peu excessif, donc je ne vais pas là-dessus. La transcription, donc, presse diplomatique, c'est la plus proche possible du texte original, et de façon à ce que l'on perde le moins d'informations possible. Et l'encodage, plus vous êtes fidèle au texte original, plus ce sera difficile à éditer, en fait, parce que vous allez avoir des caractères spéciaux. Et notamment, vous avez les caractères typés, qui sont encore très fréquents dans ce texte-là, donc le A, AN, le fameux A typé qui veut dire AN. Et donc, ce qui a été élaboré notamment par Georges ici, c'est justement un étiquetage automatique, une transformation automatique du A typé en AN, le O typé en OL, etc. Et le balisage de base, c'est-à-dire mettre des line break à la fin des lignes, etc. Donc, ça, c'est fait avec des règles de style XSLT, donc un langage qui s'apprend, pas comme ça, mais qui s'apprend. Ça s'apprend. Donc, à partir de l'encodage, l'encodage là, il est automatique, il faut quand même vérifier, bien sûr, il faut relire. Et l'encodage expert, c'est celui qui, là, l'éditeur intervient en tant qu'expert. Et là, c'est pas possible, il y a une erreur, il y a une copie, il y a un endroit, il y a un N, et visiblement, ça devait être un U ou l'inverse. Donc là, l'éditeur que vous êtes, va se permettre de corriger, de signaler que c'est une correction qui a été faite par vous, mais vous avez indiquer que c'est que la source de la correction, c'est l'éditeur. Par défaut, s'il n'y a rien indiqué, ce sera vous qui serez l'auteur de la correction. Donc ça, c'est important. C'est aussi un encodage expert pour la régularisation des noms propres, parce que ce n'est pas du tout évident d'aller trouver dans les noms anciens, hein, les médiévistes, enfin, les noms anciens, ce qui correspond à un nom de lieu ou un nom de personne actuel. Hein, parfois d'ailleurs, ça peut être changé. Donc on peut lier en parlant codage un nom de ville, par exemple, qui serait en latin pour le texte, et en associant, on encoderait le nom moderne. Mais le stylage, c'est-à-dire les formes italiennes, etc., ça se fait avec une feuille de style un peu plus élaborée qu'en Word, hein, sans nécessité, et ça permet de faire justement tout ce qui est bon. Alors, on a certains exemples de cet exemplaire de Montaigne dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc il a été corrigé par Montaigne, donc vous avez voyez un certain nombre de corrections manuscrites sur la ponctuation, les majuscules, etc., et vous voyez à droite, bon, c'est un passage très important du premier chapitre du livre 3, où Montaigne justifie la raison d'État, tout en se démarquant de Machiavel. Donc, évidemment, voilà, de l'utile et de l'honnête, il faut préférer l'honnête à l'utile. Mais dans ce passage-là, hein, il dit voilà, le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente, son bien public. Il sert toujours, hein, actuellement. Et il a ajouté donc, ça, et qu'on massacre. Et on suppose que ce et qu'on massacre fait la référence à l'assassinat à Blois des Guises, le cardinal et le duc de Guise, et non pas à la Saint-Barthélemy, comme ça, certains l'ont cru, évidemment, c'est la même chose. Hein. Cette addition-là, bien sûr, on va encoder, on peut faire un commentaire d'un livre entier, hein, de ça. L'essentiel, c'est de montrer dans l'édition numérique que vous faites, comme cet exemplaire de Vendôme, qu'il y a effectivement une addition qui est arrivée dans la marge, hein, et qui est même d'ailleurs à l'interprétation. Tout ce qui est en bleu, c'est la différence entre ce qui a été modifié en fait par le détilage ou par la régularisation, par exemple, faveur, c'est qui encore à ce moment-là, le V avec un U hein, dans l'imprimé. Donc derrière l'encodage, vous avez encore le U de faveur, et quand c'est la version primaire, enfin, quand vous regardez la version en ligne, vous pouvez choisir de voir l'original ou de voir la version régularisée. C'est l'avantage de la VMI, c'est d'avoir des options. Je veux voir la version originale, régularisée, corrigée ou non. Donc c'est vraiment important pour conserver toutes les informations. Vous pouvez, pour lire comme ça, vous pouvez contenter la version PDF, vous avez la couleur, vous que là il y a quelque chose. Ça vous permet de vous y reporter. Voilà, donc ça c'est financé par l'AMR, dans le genre de la recherche, le projet de montée de la œuvre. C'est vraiment un projet de corpus. Ce n'est pas fini, évidemment. On n'a jamais fini, on n'a jamais assez de financement, etc. Et ce qui était prévu, c'était tout ça. Hein. Les différentes éditions, les livres conservés de la bibliothèque de Montaigne, on en a conservé 101, à différents endroits, les sources avérées, les sources probables, les hypothèses, etc. Analyse des écritures, 3D, la rotation 3D de la bibliothèque, la version audio, et puis ce qui n'a pas été développé, c'est la photographie, ça demande plus de temps. Donc les livres ayant appartenu à Montaigne, ce n'est pas des livres de Montaigne, ce n'est pas lui qui les a écrits, c'est des livres qu'il a poussés, et pour certains qu'il a poussés abondamment à noter. Donc on peut faire rentrer dans un corpus, ce qui est un corpus d'auteur, ce qui n'est pas de l'auteur. Donc ça, c'est un choix, hein, mais il faut bien sûr définir ce corpus, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ça vous donne une idée de la provenance. Il y a 25 institutions à peu près qui conservent les livres. Les plus importants, c'est le Bibliothèque nationale et la bibliothèque du Cité de Montaigne. Mais le corpus Montaigne, c'est aussi ce qu'il a fait écrire sur les poutres du plafond de sa bibliothèque, dans son château. Donc il a fait écrire des sentences, assez tôt, apparemment, au début peut-être de la rédaction des essais. Et par les rayons X, l'ultraviolet, etc., mon collègue Alain Debout a pu faire montrer qu'il y avait certaines poutres qui avaient des inscriptions qui ont été effacées. Donc il y a Et ça, c'est toujours pas l'accès. Donc, sur le site, vous allez voir, hein, c'est la partie que vous voulez, vous allez voir les poutres, l'état initial, deuxième couche, si on peut dire. Donc, vous voyez, c'est tout en latin ou en grec. Hein, c'est la période où ça avance, hein, l'humaniste. Hein. Voilà. Après, dans les essais, il y a énormément de citations en latin aussi. C'est une édition des essais avec les annotations dans tous les empires de Bourgogne, le trésor national, que vous pouvez inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est effectivement un document très important, pose un certain nombre de problèmes, et notamment le déchiffrement des ratures sur les ratures, les retouches. Bon, dans le corpus Montaigne, il y a aussi des textes qui ne sont pas les essais. Hein, le corpus, ce sont les autres textes de Montaigne, donc là, dans les premières versions des essais. Hein, la théologie naturelle, qui est une traduction par Montaigne. Des lettres, on en parlait tout à l'heure. Alors, ce sont des billets, hein, c'est un peu petit. C'est évidemment le trésor. Et puis, dernièrement, on a publié, ils ont été publiés des documents qui sont moins importants, des documents de l'époque où Montaigne était maire de Bordeaux, et puis un manuscrit qu'on a redécouvert à l'évêque de Bordeaux, qui avait été un peu oublié, et qui a été publié dans la foulée, un manuscrit non pas de Montaigne, mais de la Boétie. Donc on met la Boétie dans le corpus Montaigne. Voilà, donc c'est. On va faire un corpus de la Boétie aussi, si on veut, mais c'est quand même petit. Donc il y a des corpus qui contiennent des sous-corpus. Ce qui est le cas. Pour moi, ce n'était pas du tout prévu. Donc, ce n'était pas du tout prévu qu'on redécouvre ce manuscrit, cet état de texte, puisqu'on a la servitude volontaire, qui est le texte majeur de la philosophie politique actuellement. Toujours actuellement, hein, souvent au programme, philosophie, et tout ça. C'est intéressant, parce que ça semble être un état assez ancien du texte de la Boétie. La transcription du journal de voyage, une copie qui concernait l'évêque national et qui n'avait jamais été transcrite intégralement. Et puis je suis en train de préparer l'édition posthume de 1395 et qui pose pleinement en 1392. Et l'édition définitive qui contient en partie toutes les annotations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les additions. Pose quand même problème parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr que tout soit de Montaigne. Et donc, les passages, les corrections, les modifications qui ont été faites par Marie Courbet seront encodées et marquées comme telles. Enfin, ça me permettra de voir tout de suite. Attention là, ça n'est peut-être pas de Montaigne. Donc, le corpus Montaigne, un peu aussi du Marie Courbet. Ça, c'est le lien, on va prendre le temps de regarder. Voilà, donc il y avait d'autres, il y avait déjà d'autres projets Montaigne, bien sûr, il y avait des CD-ROM qui étaient parus en 1999. Dans la version en ligne, il a été annoncé en 2013, mais il n'est toujours pas paru, toujours pas vu. Et de toute façon, c'est un accès pas payant, mais très payant, très, très cher. Et puis, il n'y a pas d'encodage du tout. Justement, ils promettent un encodage. Alors, peut-être que ce qu'on a fait met la barre un peu haut. C'est possible. Hein. On est dans un système où les éditeurs de collection veulent aussi rentrer dans leurs frais. Pour faire un encodage fin, avec la rature près, c'est effectivement non seulement du temps, mais quelqu'un qui soit suffisamment expert, ou plusieurs quelqu'un, exactement, pour reprendre tout ça. Bon, c'est un corpus ouvert, hein, parce qu'on pensait à dire que les 100 exemplaires conservés sur les 1000, hein, comme on venait d'y avoir, on pensait les avoir tous identifiés, et bien il y en a un qui est apparu, cherché du Rabelais, et j'ai trouvé une montagne à la bibliothèque de Fontainebleau, donc c'était tout à fait par hasard. Cet exemplaire n'était pas inconnu, mais il avait été oublié. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annotation dans la montagne, donc toute sa signature, on ne peut pas non plus. Parce que ça, je pense qu'ils signent toujours sur la page de titre et ils signent toujours parce qu'on demande. Donc, ça, c'est la version sonore, si on en parlera tout à l'heure. Donc, la version sonore, c'est l'émission de 1495, donc l'émission posthume, celle qui soit visible, parce que les émissions, comme vous avez vu tout à l'heure, là, on ne peut pas, on peut pas mettre ça. Et donc, ça n'est pas tous les chapitres. Ça, c'est la reconstitution 3D, aussi, la bibliothèque elle-même. Ce que vous voyez là, c'est faux. Ce qui est vrai, ce sont les murs, les fenêtres, les peintres, les calvaires, les poutres que vous voyez ici, les inscriptions sont toujours, mais ce qui est reconstitué actuellement, ce sont les étagères et les fondations. Donc ça, ça fait beaucoup plus, et visiblement, c'est ce qui est plus consulté sur les sites complets. Et ça, qu'est-ce que c'est? On ne voit pas grand-chose. C'est une photo d'une partie d'une reliure, d'origine. Hein, le texte, enfin, la reliure gagnant appartenait à Montaigne, qui est conservée à la bibliothèque de Bordeaux. Alors, l'avantage des livres conservés des livres de Bordeaux, c'est que pour la plupart, ils n'ont pas de belles reliures. Ils sont des reliures d'époque, c'est-à-dire des reliures en beau ou en or, qui sont juste, mais voilà, très simples. Donc, voilà. Et là, mon collègue Alain Legault a dit il y a des traces, quelque chose qui était écrit sur la reliure. Personne n'a écrit ici, et voilà ce que ça donne avec une lampe rouge. Et donc là, ce n'est pas encore très déchiffrable, mais les collègues ont fait le compte de déchiffrer, et effectivement, c'est une citation en grec, le nom en grec, de la main de Montaigne, un fragment de Stobé, et d'une autre main, ça n'est pas la main de Montaigne, je crois sur parole. Et donc là, mais comment on peut encore trouver des choses avec des moyens techniques qui sont effectivement, bon, l'herbe de route, c'est ultraviolet, hein, mais c'est déjà pas mal, effectivement, on peut faire des choses comme ça. Donc il y a des. Le corpus, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi une toute petite trace. En partie, les archéologues vont faire ça. Hein. C'est pratiquement du travail archéologique pour faire ça, que de reconstituer justement à partir de. Dans l'édition des empereurs de Bordeaux, ça doit être ça. Ce qui est en orange là, eh bien, c'est ce qui a été coupé par le couteau du relieur. Le relieur n'avait pas. Le futur de Montaigne, hein, du 18e siècle, donc ça a été coupé, donc toutes les lignes, là on les a disparu. Heureusement, il y a l'édition posthume qui permet de reconstituer les lettres de l'encre. Après, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc on a encore quelques bouts. Alors, ça, des arrêts, donc Montaigne fait partie aussi du corpus. Je parlais tout à l'heure du texte non littéraire dans le corpus Montaigne. Donc Montaigne a été parlementaire au Parlement de Bordeaux, et donc il y avait une commission judiciaire à l'époque, donc il a signé un certain nombre d'arrêts, hein, de décisions de justice, et il en a gardé un certain nombre. Mais vous voyez, ce sont des documents juridiques, hein, donc judiciaires, qui sont très annulés pour certains. Et donc, il faut reconstituer ce qu'il y a dans l'autre. Là, c'est pareil, il faut avoir de bons yeux, il faut voir l'original. Bon, bien sûr, on avait la numérisation en ligne, c'est les archives de Gironde qui sont en ligne. Mais il faut vraiment aller voir sur place pour pouvoir vérifier ce qui a disparu. Et puis, vous avez ces signes, ce sont des signes que Montaigne a mis dans le texte pour justement ces appels en fait de ce qui est mis dans la marge. Et ces signes-là, non pas, ce ne sont pas des signes du code, donc c'est pour ça qu'on a mis des lambdas partout, parce que il n'y a pas de numéro de système du code international pour désigner ces signes-là. Or, il marque un ordre dans lequel Montaigne a inséré les signes. C'est intéressant de chercher une chronologie de l'écriture des essais, de tenir compte de ce que ça. je me suis dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse dans la constitution de ce corpus, c'est aussi, non pas de voir à l'œuvre le processus de création, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire, vraiment, comment s'écrit un texte, comment un texte tel que les essais est aussi important, quelles ont été ses étapes, et comment Montaigne lui-même, dans son trait de plume, dans sa façon d'écrire, pourrait être inspiré par ses propres textes, puisque lui-même faisait des additions et pouvait corriger ou amender son texte antérieur. Donc là aussi, la question du corpus dépend de l'objectif esthétique qu'on peut avoir, scientifique, ou les deux à la fois. Donc ça, c'est le schéma du corpus Rabelais, je vais vous en parler. Ça, c'est la carte mentionnée par Gargantua. Donc, à partir de la transcription de l'édition de Gargantua. Et ça, c'est une redécouverte aussi que j'ai faite. Le texte grec, les œuvres complètes de Galien, de 1925, très belle édition RAD, certaines pages, entièrement annotées par de la main de Rabelais. Et jusqu'à ce que mes collègues, Romain Ménier et Olivier Pécou, retournent à Sheffield pour regarder ce document, on pensait que ça n'était pas la main de Rabelais, donc effectivement, comme on l'a dit, on voit que c'est important, parce que ça fait des échantillons autographes de Rabelais que l'on va pouvoir confronter éventuellement avec des textes dans lesquels il y a des annotations anonymes. Là il y a la signature de Rabelais sur le cadre de volume du texte, donc du coup, ça il n'y a pas que la main de Rabelais, donc c'est pas facile avec les autographes. Alors, d'autres éléments pour d'autres corpus. Donc, je cherche. J'ai signé des BDA, j'aurais pu nous sélectionner en fonction de ce qu'on avait en région centre. Par exemple, on avait effectivement une édition, c'est une édition au centre de la Renaissance. Et vous voyez, des annotations manuscrites en grec, avec une manicule, avec un grand bois, on va regarder là. Eh bien, un collègue a dit, mais ça, c'est la main de Guillaume Pédé. Mais Guillaume Pédé, quand il a mis ses textes, ne met jamais son nom. Donc il faut effectivement à l'œil d'un expert pour dire non seulement son écriture, mais en fait ce qui est remarquable, c'est que c'est la manicule, c'est qu'il est dessiné toujours comme ça. Donc ce texte-là va pouvoir aller vers éventuellement d'autres corpus, quelqu'un qui va faire un corpus de Guillaume Pédé, des livres annotés par Guillaume Pédé. Et puis, il y a actuellement un grand projet international sur les livres annotés, justement, de la Renaissance du XVIIe siècle, qui est produit par Princeton. Et donc, effectivement, cet ouvrage-là est un très bon exemple, justement, d'intérêt au niveau philosophique, pour les philosophes de la Renaissance qui a été parmi eux. Autre exemple, un corpus qui va aller vers d'autres corpus, c'est pas un élément de corpus, la campagne qu'on est en train de mener à Angers, la bibliothèque municipale d'Angers, nous sort de la région centre actuellement. Donc il y a un exemplaire de ce texte qui a appartenu à John Dee, un important de la Renaissance anglaise, mais qui n'était pas répertorié par les Anglais eux-mêmes. Ils ont fait une reconstitution de la bibliothèque de John Dee, mais ils n'ont pas. Il n'avait pas connaissance de cet exemplaire français. Donc là aussi, on échange avec d'autres corpus qui se font ailleurs. Bon, on fait des corpus, il faut documenter, toujours dire comment on a fait, qui l'a fait, comment on a fait, comment on a modifié, tout ça. Et j'en viens à la notation collaborative, avec des petits tests qu'on est venu de travailler, pour. L'annotation collaborative, c'est ce travail justement de collaboration qu'on essaye de faire pour améliorer la qualité des corpus. Alors, il existe la transcription collaborative, en fait, nous, on ne l'a jamais fait, mais il y a des sites où vous pouvez le faire. Donc, le site Gutenberg, par exemple, vous pouvez faire la transcription collaborative, quelqu'un va transcrire, quelqu'un d'autre va corriger, etc. Donc, ce sont des amateurs ou des experts. Pour faire la transcription collaborative pour des textes difficiles, c'est difficile, justement. Donc il faut avoir, non pas des amateurs, mais vraiment des experts. Vous pouvez aussi avoir de la correction collaborative. Vous avez des textes qui sont passés à la tiers, mais avec beaucoup d'erreurs. Donc la post-CA, la correction collaborative, elle peut être faite aussi après des transcriptions non expertes. Vous avez engagé un prestataire, mais il n'est pas spécialiste, il est étranger, et il ne sait pas lire correctement les caractères, même les caractères un peu moins anciens. Donc il faut, la correction collaborative va consister à corriger et à réinjecter cette correction dans le texte qui n'est théoriquement pas si simple. Et puis, ce qu'on va faire là maintenant, c'est l'enrichissement des corpus. L'enrichissement des corpus, externes, c'est affiner les métadonnées, donc les instruments de sens. Et l'enrichissement interne, c'est bien sûr toutes les dimensions d'encodage que vous avez ajoutées. L'encodage basique ne suffit pas. Vous êtes linguiste, vous voulez un encodage linguistique, vous allez marquer les noms, les verbes, etc. Et les masser, c'est-à-dire que dès qu'un verbe sera conjugué, l'associer au verbe à l'infinitif, etc. Donc, tout ça, ça peut être évidemment fait en fonction. Alors, interne, ça veut dire interne au texte, bien sûr. Alors, externe, donc, affiner les métadonnées, on va expliquer le faire. Et l'exercice, c'est le suivant. Alors, vous avez trois livres. Bon, j'espère, j'ai changé trois livres, en principe, tout le monde les connaît. Vous avez l'Odyssée d'Homère, vous avez Madame Bovary et vous avez le Capital. Alors, l'exercice consiste à associer trois mots-clés qui consisteraient à dire, à définir le genre de chacun. Vous comprenez ? Si je prends un autre texte, par exemple, voilà, les essais de Montaigne, je veux dire, le genre, c'est l'essai. Mais je demande trois caractéristiques. Alors, je peux ajouter prose, par exemple, essai, prose, et puis je peux ajouter un domaine qui va spécifier le genre, philosophie. Donc, ce que vous allez faire spontanément, vous le faites comme ça, mais là on va prendre 20 minutes à peu près, donc 20 minutes c'est la pause et puis l'exercice, comme ça vous pouvez discuter entre vous et puis ajuster éventuellement vos réponses, et vous pouvez les regarder sur les sites. Alors vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme site, bien sûr, mais en priorité j'aimerais que vous regardiez le site du SCD de Tours, la façon dont ils écrivent ces trois livres. Je parle des livres textes, c'est-à-dire le texte du Capital, le texte de Madame Bovary, le texte de l'Odyssée. Pas les ouvrages sur l'Odyssée, sur vraiment le texte, hein, on parle d'édition. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir sur Amazon. Et là, je vous demande de regarder ce qu'il y a sur Amazon.fr, donc l'Amazon français, et l'Amazon britannique, pas Amazon.uk, pour aller voir comment le même livre est écrit. Et vraiment, c'est instructif. Bien sûr, vous pouvez regarder aussi sur Google Books, mais là, vous allez perdre beaucoup de temps. Mais c'est pas inintéressant de comparer aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, vous regardez effectivement les sites utilisés en priorité, j'ai dit filtre et facette. Donc, filtre et facette, c'est ce que vous avez sur la frame gauche de ces sites. Donc, il faut s'en servir. Et c'est très intéressant de voir ce qui apparaît quand on cherche justement. Alors, quelle heure est-il? Voilà, jusqu'à 16h15.